bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% Foot, votre émission consacrée à l'Olympique de Marseille et au football régional. On se retrouve pour traiter de toute l'actualité des féminines de l'Olympique de Marseille, les Marseillaises, le SCAB, le Sporting Club d'Aubagne-Herbelle et l'Olympique de Marseille. Grosse semaine et un gros programme qui nous attend ce milieu de semaine. Je suis avec mes deux acolytes, Franck et Patrick. Bonjour messieurs.
Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Bonjour à toutes.
Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine malgré l'actualité négative qui s'est abattue, puisque une fois n'est pas coutume, on va traiter de trois défaites concernant nos clubs, avec tout d'abord le football féminin et l'Arkema Première Ligue, avec cette 16e journée qui a vu les Marseillaises de nouveau s'incliner lourdement à la maison à Francis Turquin face au leader du championnat, l'Olympique Lyonnais, les Lyonnes, 6-2.
C'était plus que prévisible, malheureusement. En ce qui concerne la semaine, évidemment, la réponse est de la question. Elle ne s'est pas super bien passée.
Voilà. Sur cette défaite de nos Marseillaises de Corinne Diacre, Mathilde Bourdieu, qui avait inscrit un quadruplé à la Méno, était absente pour cause de suspension. Elle a suivi la rencontre depuis les tribunes de l'enceinte Marquigal.
Marie-Charlotte Léger également, nos deux attaquantes phares, étaient justement suspendues pour ce match-là.
Mais après Lyon, c'est pas le même championnat.
C'est une autre catégorie.
Même les clubs parisiens, Paris FC, Paris Saint-Germain, c'est au-dessus de nous, mais c'est en dessous de Lyon. Lyon, c'est intouchable cette année.
Justement, tu fais bien, Patrick, de parler des clubs parisiens, puisque la prochaine échéance, ce sera un déplacement au Parc des Princes le 11 mars prochain, face au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, encore un programme très dur pour nos Marseillaises.
Pour la 17e journée, Thierry, tu as raison. Ça sera un horaire inhabituel à 16h15, mercredi 11.
Le mercredi 11 mars, les Marseillaises qui iront défier le Paris Saint-Germain au Parc des Princes pour le compte de la 17e journée. Et aussi, un petit mot concernant la première au Vélodrome de nos Marseillaises, voilà, qui aura lieu dans un mois pour à l'occasion de la 19e journée avec la réception de Montpellier. Samedi 28 mars à 18h30. Voilà. C'est une belle initiative de la part de la direction marseillaise. Les places sont à réserver sur le site du club et ce sera gratuit pour
l'ensemble, sauf ceux qui décident de prendre des billets spéciaux pour visiter, etc.
Il y a des formules spéciales qui sont mises en vente sur le site du club pour cette rencontre au Vélodrome. Mais bon, c'est plutôt une belle initiative.
Absolument. L'OM profite justement de ce creux, pas de l'OM masculin qui sera absent.
C'est vrai que cette rencontre aura lieu en période de trêve internationale.
Où les joueurs seront en équipe nationale. Mais je crois que le but, c'est que les gens prennent l'habitude d'aller voir jouer les féminines. Oui. Si tu arrives à avoir 15 000, 20 000, en France, il faut savoir que même les Lyonnaises, qui pourtant ont été 7 fois ou 8 fois championnes d'Europe.
N'ont pas d'affluence record.
Voilà, quand elles jouaient à Gerland ou elles jouent
au Groupama Stadium.
À présent,
elles ne font pas des affluences considérables. Il n'y a pas le même nombre de spectateurs. Et le fait de faire gratuit, c'est pour essayer de faire venir des gens.
Absolument, de promouvoir le football féminin en même temps.
Et je pense qu'ils feront auprès des écoles, des gosses et tout. Parce que c'est pour les filles, c'est bien. Tu joues devant 20, 25 000, c'est
ça serait super
quoi. Voilà. Et Montpellier, c'est une équipe qui est de notre championnat, qui est derrière nous d'ailleurs.
On profitera pour enterrer la relégation de Montpellier, malheureusement, qui se profile pour les féminines.
Cette équipe héroltaise qui occupe l'avant-dernière place de ce classement d'Arkema Première Ligue avec 9 points.
Montpellier n'a plus que 8 points. Je crois que c'est Saint-Étienne qui est à 9 points avec Lens. Bien cela. Donc Lens 10e, Saint-Étienne 11e et Montpellier dernier, absolument. Et nous restons donc en 9e position avec 15 points. Nous verrons bien pour cette prochaine journée.
Voilà, si on gagne contre Montpellier, on se met plus ou moins à l'abri.
Pour rappel rapidement, pour la 19e journée, le 28, comme vient de le dire Thierry, à 18h30 au Vélodrome. Le 28 mars, autant pour moi. Ouais, c'est ça.
Voilà, ben on va passer au national et avec les joueurs de Gabriel Santos, le SCAB, qui s'est incliné à la maison. Ça ne va pas très bien pour nos Aubagnais face à Quevilly, une équipe plutôt mal classée qui s'est imposée 1-0.
Eh oui, qui était sur la porte de la descente, justement, Quevilly-Rouillan, et qui se sont fait la cerise face à nous, malheureusement. Pour la deuxième journée, on a perdu 1-0.
Ouais, un but de Atangana à la 23e minute, on a eu raison des Aubagnais sur cette 22e journée de championnat de national.
Un match insipide, en l'occurrence, sans vouloir rentrer dans les détails. Et, il n'était pas bon de mettre un joueur de football dehors ce soir-là.
Oui.
Et en même temps, on l'a bien compris quand on les a vus jouer. Ouais.
Les conditions étaient très compliquées. Ouais. Voilà.
Oui, extrêmement compliquées. Et le problème d'Aubagne, c'est une équipe courageuse. Moi, les matchs, pratiquement, je ne les ai pas tous vus, mais presque. Sur BFM, nos confrères, nos amis.
Bah, c'est vrai que là, cette rencontre, elle était programmée juste avant le match de l'OM, en déplacement à Brest, puisque les joueurs de Abibay ont ouvert cette 22e journée.
Tu regardes BFM d'avant et après tu bascules sur Ligue 1 Plus.
C'est ce qui a été le cas.
Voilà. Mais c'est vrai que moi, je les ai souvent vus faire des résultats, surtout à l'extérieur,
souvent,
au courage, en défendant, avec un peu de réussite. Et là, la réussite, en ce moment, ils l'ont pas.
Elle leur fait défaut depuis quelques matchs.
Ils prennent un but en première mi-temps devant une équipe qui n'était pas terrible. Non. Et en seconde mi-temps, ils n'arrivent pas au moins à égaliser.
Vu pour preuve, leur classement, évidemment.
Ils ont été assez maladroits devant le but. Je pense que c'est ce qui a précipité leur défaite.
Et tu ne peux même pas dire que c'est le goal adverse. Il n'a pas fait des miracles. Ouais. Mais quand tu ne cadres pas, quand tu rates des passes...
vrai que le portier normand a été très peu sollicité. Donc...
Voilà. Mais bon, c'est un coup malheureux, mais c'est une équipe accrocheuse, hein. Ils reviendront.
Oui.
Mais c'est en ce moment, ils ne sont pas dans le...
Ils traversent une mauvaise passe.
Voilà. Mauvaise passe, comme on dit.
En espérant que pour la 23e journée, qu'ils se
profitent. Ce sera un déplacement en Île-de-France, sur la pelouse de Versailles.
Ils sont souvent meilleurs à l'extérieur.
Vendredi 27,
Quand il ne faut pas faire le jeu, qu'il faut subir et contre-attaquer, ils sont souvent meilleurs, l'équipe d'Aubagne.
Mais on espère que ça leur sourira et qu'ils ramèneront un résultat positif de ce déplacement en région parisienne pour la 23e journée de ce championnat national. Voilà, on en a terminé avec les féminines, les Marseillaises et le SCAB en national. On va passer au gros, avec la semaine olympienne. Je ne sais pas si vous en avez déjà beaucoup dit la semaine dernière, avec tout ce remaniement au sein de l'organigramme de l'Olympique de Marseille, après le départ de Roberto De Zerbi, la démission et le retour de Mehdi Benatia. Voilà, il y a
pseudo-démission, en l'occurrence.
Il y a le propriétaire et actionnaire Franck Macourt, qui était de retour à Marseille après avoir assisté au match face à Strasbourg au Vélodrome il y a une dizaine de jours. Et finalement, il a décidé d'écarter Pablo Longoria. Donc, au niveau des fonctions, Pablo Longoria qui est en train de négocier son départ actuellement et qui est pressenti pour reprendre du service du côté de l'Italie où il a déjà travaillé.
Tout cela se finalise à présent.
Mais après, dans la situation, on parlera de foot.
D'abord, l'aspect coulisses, Patrick, avant d'entamer le terrain et la défaite à Brest.
Quand tu regardes ce qui se passait, moi, je trouve injuste les critiques contre Macourt. D'abord, parce qu'on oublie que s'il ne mettait pas les rondes tous les ans, on serait en Ligue 2. Parce que toutes les saisons, il a rajouté les ronds pour... qu'on passe devant la DNCG, même pas pour acheter. Il a mis des ronds pour acheter, mais il a mis des ronds pour combler les déficits et qu'on soit validé à la DNCG. Mais en plus, il a une équipe en crise. De Zerbi s'en va en disant qu'il a perdu la main, qu'il ne comprend plus.
Oui, on l'a un peu aidé sortir du paysage.
Et tu as un directeur sportif qui dit démissionner, mais qui est toujours là. Et qui a rencontré, après sa démission, paraît-il, un entraîneur qu'il voulait comme futur entraîneur. Donc, à un moment donné, Macourt, il n'est pas con. Il a très bien compris que tu ne peux pas te permettre de rester deux mois sans entraîneur avec un intérimaire
qui
fait ce qu'il peut, mais que tout le monde te râle en disant « t'es gentil, la semaine prochaine, t'es plus là ».
Et donc, la suite du départ de Roberto De Zerbi, il y avait vraiment la volonté de la part des dirigeants de retrouver un coach rapidement.
Très vite,
et
voilà.
C'est ce qui a été fait. Parce qu'on a appris qu'apparemment, il y a une rencontre à Paris entre Mehdi Benatia et Habib Bey.
Oui, trois jours après sa démission.
Voilà, juste après.
On se demande départ. Comment.
Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a eu cet épisode de la démission au lendemain de l'humiliation au Parc face au PSG. Le 8 février dernier.
Ouais,
et à la suite de ça.
Voilà, donc tu rencontres Bey le jeudi. Mm. C'est ta solution, c'est la seule, puisque, semble-t-il, tu écartes plus ou moins une ou deux. Il y avait Tudor qui était dans les tuyaux, mais il a choisi Tottenham.
Il a préféré faire une pige de 6 mois à Londres du côté des Spurs de Tottenham.
Il a raison, il tente sa chance.
Oh. Et puis bon, il ne fait pas plus généralement.
Voilà, et du coup, tu te retrouves. Ben, Macourt, il a un mec qui a mis des hommes à lui dans toutes les strates du club, dans le staff, dans toutes les instances dirigeantes, même à la com, même au médical, qui te propose un entraîneur qui est prêt à venir, qui sera accepté par les supporters, parce que c'est un ancien joueur et un ancien capitaine.
On peut rappeler pour nos auditeurs, c'est un ancien du club et il a porté le brassard de capitaine.
Ne pas concrétiser le processus qui était en cours sous la houlette de Benatia, qui avait évidemment tout en tête.
Habib Bey qui avait perdu la finale de la Coupe de l'UEFA à Göteborg contre Valence, sous les ordres de José Anigo, si je me rappelle bien.
En 2004, avec c'était la saison de Drogba.
Voilà, il y avait Mido, Drogba, Fabien Barthez.
Il formait la charnière au central avec Brahim Mdani au centre et Abdoulaye Meïté à droite et lui à gauche ou l'inverse.
Bon, maintenant, parlons du technicien qui est entraîneur, évidemment, et qu'il est depuis quelques années, qui débute au niveau pour certains, pas pour d'autres.
Après une première expérience plutôt réussie avec le Red Star,
Il
a réussi à faire monter le club francilien avec Pierre Sage, l'actuel entraîneur du Racing Club de Lens, à ses côtés. Et cette expérience au Stade Rennais,
qui reste en demi-teinte malgré ce.
Néanmoins, au niveau des résultats, sixième à l'issue de son départ.
C'est super positif pour le club.
Rappelons qu'il a pris le club, il était à la limite de la relégation.
Complètement.
Quand il a été appelé après le départ de son prédécesseur. Et donc, il a été appelé en catastrophe. Il a maintenu l'équipe. Il a fait une saison correcte avec des hauts et des bas.
Il faut se rappeler qu'il y a encore 3 semaines, il était au stade Vélodrome sur le banc du stade Rennais lors de ce 3-0 et cette élimination en Coupe de France de la part des Bretons.
Et dans l'ensemble, il a fait un bon parcours en Rennes. La seule question que beaucoup se posent, quand je dis ça veut dire que moi, je me la pose, c'est est-ce qu'il a eu le temps de digérer l'épisode rennais, de se reconstruire un peu ? Parce que là, on dit Francaise, il arrive de Nice et il passe à Rennes. Mais il a eu 2 mois et demi pour se
C'est vrai qu'entre son départ de l'OGC Nice et son arrivée sur le banc du Stade Rennais, il y a eu moins de temps que Habib Bey, puisque là, c'est vrai que tout s'est enchaîné assez rapidement avec l'arrivée du technicien franco-sénégalais sur le banc de l'Olympique de Marseille.
Il n'y aurait point que la Francaise était actée pour le club et qu'il fallait bien qu'évidemment qu'il se profile sur un départ qui s'annonçait chez nous. Et ça s'est accéléré. Benatia a mis les bouchées doubles pour.
Mais c'est vrai que ce petit jeu de chaise musicale entre le club marseillais et breton, ça ne s'est pas fait dans les mêmes conditions. Hein. Quand on souligne l'arrivée de Francaise sur le banc rennais et celle de Habib Bey sur le banc marseillais.
Effectivement, il y avait quelques griefs qui étaient ciblés sur Habib Bey. Des choses avec les joueurs, etc., de la direction, qui était en discussion, surtout pour ne pas payer, je dirais, les émoluments demandés.
C'était vraiment un choix voulu et assumé de la part de la direction et de Mehdi Benatia concernant Habib Bey pour prendre la suite de Roberto De Zerbi.
Il avait fait son choix, me semble-t-il, et que c'était une idée qu'il avait dans la tête et qu'il a su justement concrétiser en mettant évidemment de la partie notre financier Macourt. Mmh. Voilà.
Et c'est vrai que après cet intérim assuré par Romain Ferrier et Pancho Abbandonado contre Strasbourg, il y avait quand même la volonté d'avoir un coach qui arrive rapidement et qui prenne l'équipe en main pour assurer la rencontre au stade Francis Leblay face au stade Brestois vendredi.
Et parce que c'est vrai que Pancho et Romain Ferrier, ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Mais c'est une équipe, rappelons que tu te fais reprendre par un pénalty dans les arrêts à la 95.
Il faut voir aussi le process qui amène au départ de Roberto De Zerbi après cette claque face au PSG, cette humiliation 5-0 sur la pelouse du parc.
Sur les répercussions physiques et mentales sur nos joueurs.
Parce que si j'étais mesquin, je dirais ce que je ne pense pas vraiment, hein. Que les joueurs, ils l'ont lâché à Paris. Parce que perdre, oui. Perdre, même prendre un 5-0 si Paris a fait un gros match. Hein. Mais tu fais des erreurs de cadet. Voilà, tu fais des erreurs de débutant. Ils prennent 4 barres à Paris.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils peuvent te mettre la rouste du siècle. Et les mecs,
c'est vrai que le score final, c'est 5-0, mais l'addition aurait pu être beaucoup plus salée pour les Olympiens.
Dans la mesure où on n'a pas essayé de résister, et on a baissé les bras dès le moment venu.
Tu as été catastrophique. Et à un moment donné, moi je suis l'entraîneur, je me dis les mecs, ils m'ont lâché. Quoi. Et De Zerbi, quand il te dit en conférence de presse devant tous les journalistes, je comprends pas. En gros,
il avait l'air d'être complètement désemparé. Il avait plus la solution. Il avait plus la main sur son groupe. Donc, ça paraissait.
Il fallait qu'il parte.
C'était inéluctable ce départ du technicien italien.
Oui, complètement.
Mais est-ce véritablement pas un peu prématuré? On aurait peut-être pu. C'est fait à présent, on va continuer la saison avec un intérim. Mais là, évidemment, Kabibawe a signé, donc on est reparti pour une nouvelle aventure.
Après, le problème, je disais Macourt, je le comprends.
Ah oui.
Tu sais que tu as deux matchs là, on va jouer dimanche Lyon et après mercredi, on reçoit Toulouse en coupe.
Les dernières chances.
Tu joues ta saison sur ces deux matchs. Il te faut un entraîneur titulaire. Tu ne peux pas avoir un intérimaire. Tout le monde sait qu'il est là pour 3 semaines.
D'accord.
Que les joueurs écoutent s'ils ont envie. Et une équipe qui est déstabilisée. Il te faut une reprise en main. Il y a un mec qui arrive, qui est en place, qui a mis ses hommes partout et qui te propose une solution clé en main. Avec un mec qui est quand même bon entraîneur et qui a un passé au club, que tu sais que les supporters... Abibey, il a un préjugé favorable.
Et vous pensez que le fait qu'il ait déjà porté la tunique marseillaise en tant que joueur, qu'il connaît un peu l'environnement et le contexte marseillais, ça puisse jouer pour essayer de redresser la barre et remettre cette équipe à flot? Parce qu'on voit vraiment que ça...
Rien n'est moins sûr.
Le mal était vraiment assez profond. Puis bon, comme on le disait auparavant, il y avait quand même cette humiliation au parc qui suivait juste avant des matchs cataclysmiques. Notamment en Ligue des Champions avec cette élimination à Bruges et ce match au Stade Jean-Bouin face au Paris FC une semaine avant ce déplacement au parc face au PSG.
Alors peut-être atténuer les velléités un peu non pas dévastatrices, que j'espère qu'il n'arrivera jamais, pour les supporters, rester je dirais un peu plus soudés, l'ensemble non pas des supporters mais les grosses troupes, évidemment, pour rester unanime avec cette équipe, et évidemment que le soutien d'Abibay, évidemment, pourra en ce sens, c'est un bon communicant en même temps.
En plus, Bay, il a été joueur, il était très apprécié. Moi, j'étais.
C'est évident.
Je me rappelle bien. Il a été capitaine à de nombreuses reprises. Il est associé à la génération Drogba, parce que lui et Bay, les deux stoppeurs, c'était les grands copains à Drogba. Chaque fois qu'il marquait, il se sautait dessus et tout. Et donc, c'est une époque bénie pour les...
C'était l'époque de Pape Diouf, en tant que président de l'Olympique de Marseille. Ouais. D'ailleurs, Pape Diouf, avec lequel il entretenait des liens et des relations assez fortes.
Oui, parce que...
Ce qui est légitime.
Parce que Sénégalais, tous les deux.
Eh oui.
Pape Diouf était d'origine sénégalaise, comme Habib. Et donc, si tu veux, D'ailleurs, c'est pas un hasard s'il a parlé de qu'il a tenu
lors de sa conférence de présentation. Ben, j'étais présent moi à la commanderie. Bon, j'étais pas dans la salle auprès des journalistes, mais bon, j'ai pu échanger après la présentation avec le technicien franco-sénégalais. C'est vrai que il a fait allusion à l'ancien président Pape Diouf, le regretté Pape Diouf qui nous a quittés pendant la période du Covid. Il y a presque 6 ans.
Oui, donc, et c'est vrai que
quelqu'un qui a marqué le club et avec lequel il entretenait des relations très fortes.
Et je pense que c'était tout à fait sincère parce qu'ils étaient très proches. Hein. Moi, le peu que je me souviens, c'est qu'ils étaient extrêmement proches. Mais c'est vrai que le fait d'en parler, Diouf s'est considéré par tous les supporters de l'OM comme le meilleur président depuis l'an 2000. Depuis après Tapie, quoi.
Là, ouais.
En gros, Tapie numéro 2 a été un échec. Hein. Ça n'a pas marché. Oui. Mais tout le monde considère que c'est le meilleur.
Malgré le fait que le palmarès soit resté vierge pendant cette période.
Oui, mais
c'est vrai qu'il a quand même noué des liens très forts avec les supporters. Voilà. Dans sa gestion, il y a eu pas mal de choses très positives de la part de Pape Diouf.
C'est lui qui a fait venir Guéretz, qui était quand même... qui a été très, très populaire auprès des supporters, qui reste populaire. Il a fait venir Deschamps derrière. C'est le dernier avec qui tu as gagné des trucs.
Finalement, on revient à ça. Il a été générateur, justement, d'un souffle nouveau qui a permis de Guéretz à Deschamps, qui a concrétisé par des titres les seuls.
Après, il n'y a plus rien eu, parce que c'est juste à la fin qu'est arrivé le Qatar à Paris. Et avec les milliards, là, tu ne peux plus survivre. Mais il est donc associé à ça. Je pense que c'est tout à fait sincère, parce qu'ils étaient très proches.
Difficile d'être dans la continuité.
Et pour les supporters marseillais, la finale à Valence, à Göteborg contre Valence, Barthez, Meite, Mdani, Bey, Drogba, ça reste quand même des... Ça reste des
c'est vrai que lors de cette finale, on a davantage retenu l'épisode de M. Collina,
qui avait expulsé Barthez. Oui.
C'était les plus que préjudiciable sur cette finale.
Il y avait encore ce qu'on appelait la double peine, c'est-à-dire que tu fais une faute dans la surface... En l'occurrence, un tacle mal maîtrisé, tu as péno et carton rouge. C'est-à-dire qu'on te tue le match.
Une double peine, justement, qui peut être remis en cause par le système arbitral.
A été supprimé, en théorie.
Oui, en théorie,
Ça reste une époque où ça plaît. Et lui, moi, je me rappelle, j'étais supporter depuis déjà longtemps, mais... ça restait une image.
Il a su rallumer la flamme.
Extrêmement populaire.
C'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de supporters qui ont des souvenirs relativement vagues de cette période
Mais ceux qui étaient au stade, les anciens, c'était un combattant, un guerrier qui lâchait jamais et qu'on a mis capitaine au mérite, c'est-à-dire à l'exemplarité.
Oui, il y avait
tous ceux qui ont connu le Habib Bey joueur sous la tunique de l'Olympique de Marseille se rappellent.
C'était un combattant.
Ses qualités, son amour pour le club.
C'est le coach que nous attendons, évidemment. Ça va évidemment transpirer la bienveillance de sa part et de toutes les manières. Oui, oui. Nous espérons qu'il arrivera à ses fins.
Ça lui laisse une marge de manœuvre
aussi.
Justement, on va en parler puisqu'on va évoquer le terrain et cette première. Bon, après avoir dirigé une séance la veille de ce match face à Brest, ça s'est soldé avec un résultat négatif et la mauvaise série qui continue pour l'Olympique de Marseille avec ce résultat inattendu sur les terres bretonnes face au stade brestois.
Inattendu, je ne sais pas si le terrain est adéquat, mais enfin, oui, on a été un peu surpris malgré tout de ne pas avoir justement rivalisé. Et même plus, on n'a pas essayé de faire mieux et on est resté malheureusement à côté de notre sujet sur l'ensemble. Mis à part un ou deux joueurs qui ont surnagé sur
ce match-là. C'est le cas de le dire.
Timber,
quand on voit
peut-être.
Et sur la compo que Abibay avait décidé de mettre avec le...
Cohérente, logique.
Arthur Vermeeren qui faisait son retour après avoir été écarté par Roberto De Zerbi depuis son expulsion face à Nantes début janvier.
Très, très compliqué pour lui. Et en l'occurrence...
Il est sorti à la mi-temps.
Il
a fait 45 minutes.
À côté de son sujet.
À la mi-temps. Moi, c'est ça qui me choque, entre guillemets.
Ce milieu particulier.
C'est des joueurs à qui tu laisses une chance, une deuxième, une troisième... Il y avait Pavard aussi qui était dans le trou et que tu remets, c'est quand même un champion du monde, c'est quand même un joueur qui l'année dernière jouait la finale de la Ligue des Champions avec
l'Inter, contre le Paris Saint-Germain.
Voilà. L'équipe très très cohérente. Donc,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en grande difficulté. Bon, on sait que Léo Balerdi était absent puisqu'il était suspendu, mais bon, c'est vrai que dans la compo de départ, il y a eu des choix forts de la part d'Abibaye pour une première sur le banc marseillais.
Oui, mais pas d'immense surprise. Mais en tout cas, c'est l'animation en elle-même demandée qui n'était pas présente sur le terrain. Alors, ça part de derrière, bien entendu, Thierry. Et évidemment, on parle avec ces quatre joueurs, ça a été un peu modifié pendant la rencontre, mais l'animation ne venait toujours pas.
Voilà, et après, moi, je pense qu'il y a une vérité en football, c'est que tu peux avoir... Parce que par rapport aux critiques qui ont été faites sur De Zerbi...
Prenons des joueurs individuellement, voilà, Patrick.
De Zerbi le disait lui-même, quand tu ne gagnes pas les duels, que tu ne prends pas les seconds ballons et que tu es pris de vitesse dans l'engagement,
tout est dit.
Que c'est l'autre qui a les contres, comme on dit, tu perds, parce que tu ne peux pas gagner si tu perds les duels.
Et qui va c'est une invitation, justement, à se faire, non pas marcher dessus, mais dominer outrageusement. Et c'est souvent le cas actuellement.
Ce qui a choqué pas mal de collègues, moi j'ai parlé avec les copains, comme d'habitude. Quand tu vois que ta charnière, c'était Pavard à Guerde, deux mecs de 30 ans, 29-30 ans, internationaux tous les deux. À Guerde, c'est le capitaine en seconde de l'équipe du Maroc. Pavard, c'est les champions du monde.
Ça les a pas empêchés de passer.
Deuxième capitaine, derrière Achraf Hakimi.
Derrière Hakimi. Et que les mecs, ils sont pas foutus de gagner un duel sur Ajor. Alors Ajor, qu'il est bon de la tête. Il fait 1m96.
C'est vrai qu'il a quand même un gabarit et une taille qui lui permet de prendre les ballons assez facilement.
Ça a fait peur à toute notre défense, tout de même.
Sauf que tu me diras
pas
que Pancho et Bey, ils n'auront pas dit attention, le mec il fait 1m96, c'est le même type que Giroud, bonne de la tête, qui remise, attention, le laissez pas jouer, que tu perdes le duel, je veux bien. Mais que le mec il puisse tranquillement passer sa tête, petit filet.
Ce qui a été le cas.
C'est vrai que sur les deux buts qu'on encaisse, il y a quand même beaucoup de choses à dire au niveau du placement.
Après, moi, j'ai entendu, après je lâche la balle, mais sur le premier, Rouli aurait dû sortir. Mais Rouli, le mec, il est entre les deux centraux. Ils sont deux pour le gêner.
La position était inconfortable pour se faire.
Rouli, il n'a pas à sortir. Voilà. Et il sort d'ailleurs à la fin parce qu'il voit que le mec, il a pris devant, il est devant.
Trop tard.
Personne ne saute pour le gêner.
C'est très compliqué pour le portier argentin marseillais.
Ah oui, oui.
Donc c'est plus la défense et la charnière qui a pointé du doigt sur ces deux buts que l'OM encaisse.
Le second, il est petit filet, il est intouchable. Oui. Mais le premier, tu as deux mecs dessus. Il y en a bien un qui va ne serait-ce que le gêner, le pousser un peu.
Ça n'a pas été le cas.
Le mec, il met sa tête, il te le met dans la lucarne.
C'est plus qu'au regrettable.
C'est vrai que c'est l'attitude plutôt amorphe et apathique des deux, que ce soit Benjamin Pavard ou Naïef Aguerd.
Voilà.
Et surtout, en début de match, où c'est pas possible qu'on les ait pas prévenus. Attention, le jeu de tête. Tu n'as même pas besoin qu'on te prévienne.
Ils le savent.
Tu le sais. C'est pas possible que le mec, il saute, il soit seul. Le second but, il passe entre les deux.
Ouais.
Il saute entre les deux, il est seul, il met la tête, il a place un petit filet. C'est intouchable. Comment tu le laisses sauter? Je veux bien qu'on ne doit pas...
Il y a des espaces qui sont vraiment inexplicables à ce niveau.
Moi, je parlerais, c'est invraisemblable de se retrouver dans des situations pareilles de jeu. Car
et
on voit amorphe.
On parle d'une équipe comme l'Olympique de Marseille en Ligue 1. On n'est pas au niveau du football amateur. Donc
Là, on a cité deux cadres.
C'est quasiment des erreurs presque de débutants, j'ai envie de dire, sur ce premier but inscrit par Ludovic Ajorque.
Oui, parce que moi, j'ai vu cette saison des buts par qu'a pris Nice. Mais Dante blessé, leur charnière, c'était bas et au pont, 19 ans et 18 ans et demi. Ils se font avoir, tu peux dire, ils se font avoir par un vieux requin. Là, tu es Pavard à Guerne, 29 et 30.
Voilà. Ça, c'est pas admissible.
Ça, c'est pas normal.
C'est deux joueurs expérimentés qui ont quand même beaucoup de bouteilles. Et donc, faire prendre et avoir la sorte, c'est...
C'est pas les seuls, je dirais, fautifs sur l'ensemble de l'équipe. Personne n'a surnagé. J'ai fait référence à notre milieu Timber, par exemple. En l'occurrence, même nos meilleurs joueurs, soit devant, au milieu, etc., notre capitaine du moment, qui était aussi à côté de son sujet, qui avait du mal.
Oui.
Et devant, l'animation offensive, évidemment, n'était loin d'être extraordinaire.
C'est vrai qu'avec avec l'absence de Léo Balerdi, on se demandait qui Abibay allait... aller promouvoir capitaine, et puis bon, c'était... finalement, on a vu que c'était le vice-capitaine, l'international danois Pierre-Emile Højbjerg.
C'était logique.
Parce que c'est quand même... Il y a aussi un truc dans le boulot de capitaine, c'est que tu parles à l'arbitre.
Et voilà.
C'est le capitaine du Danemark.
Il communique très bien.
Ancien finaliste de la Ligue des Champions avec Tottenham, un mec qui a été titulaire au Bayern Munich, en Angleterre et tout.
C'est quand même un joueur expérimenté qui a une carrière qui parle pour lui.
Voilà.
Mais Patrick surtout communiquer avec l'ensemble de ses joueurs.
Oui.
Il leur donnait cet influx, cette envie.
Les mecs t'écoutent. Mais toute l'équipe a sombré. Højbjerg comme les autres,
oui.
Mais parce que on parlait des deux buts, mais normalement le mec qui centre pour la tête de Højbjerg, il doit pas être seul.
Ah là c'est pas normal.
C'est comme le but qu'on avait pris à Paris,
ça y ressemble.
L'action au Paris FC où il se fait égaliser dans les arrêts de jeu.
C'est
le mec il est seul, il a tout le temps d'ajuster son centre. C'est pas normal.
Ces situations sont récurrentes.
Surtout en début de match.
Mais c'est vrai qu'après avoir encaissé ce premier but juste avant le quart d'heure de jeu et ce deuxième juste avant la demi-heure, on aurait dit que au moment de rentrer au vestiaire à la pause, que la messe était quasiment dite. Après, je ne sais pas le discours que leur a tenu à Bibeye à la mi-temps, mais... Quand on voit la deuxième période des Olympiens, c'est
un peu meilleur.
Il y a eu du mieux, mais c'était pas suffisant pour essayer
de réagir. Mais c'était inoffensif,
voilà.
Évidemment.
Ça manquait de tranchant pour vraiment mettre cette équipe brestoise en difficulté.
Ah oui. Alors, Brest, ils sont contentés de gérer, de bien défendre, en jouant 2-3 contre. Voilà. Mais tu les as, à part l'action où Greenwood. Il n'y a que lui qui a mis un peu le feu, mais qui a joué trop tout seul. À un moment donné, il faut jouer en équipe.
Comme bien souvent.
Ça, voilà. ça a été une déception. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Mason Greenwood, sur cette rencontre.
C'est le seul qui a créé du danger, malgré tout.
Mais bon,
c'est à lui à tirer le péno alors qu'il est victime de la faute
Je t'en parlais tout à l'heure au café.
Justement, c'est vrai qu'il y a... À sa décharge, il y a ce pénalty raté à la 83e minute.
Par contre, j'aurais, Thierry, aimé observer sur cette situation de jeu, sur le penalty où il y a faute sur Greenwood,
que
ses partenaires viennent autour de lui pour essayer de lui demander le ballon et de le tirer à sa place. Personne ne l'a proposé.
Là, vu que la faute a été commise sur lui, il a voulu se faire justice lui-même et malheureusement...
Oui, mais en général, beaucoup d'entraîneurs disent...
Pas de soi, quoi.
Le regretté Roland Courbis le disait toujours. Le mec qui s'est fait découper, qui est victime et qui a pris un coup. Normalement, c'est pas lui qui tire.
Tu laisses le ballon à un partenaire.
Et même s'il est meilleur buteur du championnat et meilleur buteur du club...
Bon, là, on est en urgence absolue, pas de décrocher un titre de meilleur buteur,
En attendant, moi j'ai vu une stat concernant Mason Greenwood, c'était le joueur qui avait tiré le plus de pénalty, 16, et qui en avait raté le plus avec 4 échecs.
Oui.
Voilà, 4 pénalty qui se sont...
Bon, c'est relatif d'en tirer plus, un peu à manquer plus.
Mais si tu veux, le problème, c'est que c'est un bon joueur, mais comme je pense qu'il sent que l'équipe... ne tourne pas, donc il a tendance à s'enferrer à jouer seul, à tenter ce qu'il ne faisait pas en début de saison, où il s'appuyait sur ses équipiers. Là, j'ai l'impression, en tout cas en deuxième mi-temps à Brest, on l'a vu comme ça, que le mec, il décide d'y aller seul.
Oui, mais ce n'est pas la première fois. Sur les derniers matchs, c'est exactement la même chose.
Il a voulu tenter la carte individuelle et malheureusement,
ça n'a pas fonctionné.
Alors, il faut voir la complicité avec ses partenaires offensifs qui n'est pas tout le temps présente, quoi. Et pratiquement inexistante.
Oui.
Après, au niveau de l'animation offensive qu'avait mis en place Abibay, avec le changement tactique et l'entrée et l'apport de Pierre-Emerick Aubameyang à l'entame de la seconde période.
Oui. C'était bien vu. Mais bon,
il y a eu quelques situations, mais malheureusement, ça n'a pas suffi.
Oui,
en fait,
l'idée, c'est de faire jouer Guiri plus ou moins en retrait en 10. Quoi.
C'est à
peu
près...
Parce qu'il n'y a pas de 10.
C'est ça.
Il n'y a pas de meneur de jeu de faire reculer Guiri. Et Aubameyang étant rapide, à part que comme tu es mené 2-0, les mecs jouent bas. Donc la rapidité, il y a moins de place. Mais je pense que ben, il a fait les changements, bon, on peut toujours discuter, qu'il devait faire. Tu ne dois pas prendre des buts aussi moches et aussi bidons que ça. Ouais. Et puis, tu dois être plus percutant. Plus... Et moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est une équipe où tu as l'impression que beaucoup de joueurs se cachent. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils courent. Mais quand il faut prendre la responsabilité, tenter un truc difficile, il n'y a plus personne.
Patrick, ce n'est pas qu'une impression, c'est une réalité.
Ouais. Maintenant, bon, ah, je pense qu'il y a la plupart des observateurs et des supporters ont fait le même constat que toi, Patrick. Donc, ouais. C'est tellement flagrant, ça saute aux yeux. Hein, quand on le voit au fil des semaines, que ce soit les matchs à domicile ou à l'extérieur, on fait toujours le même constat.
Voilà, c'est là que moi je suis déçu par des mecs comme Vermeeren. Tu sais que tu es au club avec option d'achat. L'année dernière, il était prêté à l'Atlético de Madrid. Ils ne l'ont pas gardé.
C'était une dernière chance pour lui.
Voilà. De pouvoir tu te dis, ben, on te laisse ta chance, on te relance. Parce que De Zerbi, il avait placardisé, c'était fini.
Mm-hmm. Vas-y, là, il avait l'opportunité.
Voilà, défonce-toi, bateau, au moins voilà. Cours, cavale. Voilà, défonce-toi. Et le mec, il a fait un match
neutre. Ça n'a pas été le cas.
D'ailleurs, si le sort à la mi-temps, c'est qu'il n'avait pas été bon. Tu ne l'as pas vu en première mi-temps.
Pour revenir à ce que tu disais un instant, justement, sur le rôle de Gouiri dans cette équipe, la position, je pense que Bay, il pense également de le replacer, peut-être c'est un 9,5,
oui.
Mais d'une position de plus de meneur de jeu. C'est un peu l'idée qui est sous-jacente.
Oui, parce que le problème de Gouiri, c'est que comme attaquant de pointe, il manque de vitesse.
Eh oui.
Il n'est pas rapide. Contrairement à Aubameyang, il a pas de démarrage et de vitesse. Et donc, par contre, techniquement, il est
après,
fort.
C'est deux profils différents, hein, que ce soit Minouiri
ah ben oui,
ou
mais évidemment, oui, justement, optimiser
différent.
Le rôle de chacun.
Donc, l'idée, c'est à l'extérieur, ça me paraît intelligent, au Vélodrome, beaucoup plus compliqué, d'en avoir un en 10... qui travaille et qui donne des ballons, des remises à un mec qui est capable de prendre la profondeur et de prendre de vitesse la défense.
Aubameyang, en l'occurrence.
Voilà, en l'occurrence, Aubameyang. Ça me paraît une idée intéressante. Mm-hmm. Voilà. Parce que, après, tu as ton problème, c'est que Peck Shaw, moi, je critique. Enfin, il y a le prix qui me dérange, mais je critique pas.
C'est vrai que là, malheureusement, il traînera ça comme un boulet. C'est 35 millions d'euros qui ont été posés sur lui.
Difficile à digérer.
Par contre, qu'est-ce qu'il bosse, le mec ?
Ah oui !
Il descend, il défend, il travaille, il ne se cache pas.
On ne peut pas le critiquer.
Il fait beaucoup d'efforts.
Oui, il est rapide. Par contre, dribbler, ce n'est pas sa qualité première.
Il y a beaucoup de déchets dans ce qu'il entreprend.
Énormément, oui. Énormément de déchets. Et... Par contre, la mentalité est irréprochable. Quand tu as été en difficulté, le mec, il bosse. Hein.
On peut le souligner.
Le mec, il finit arrière-gauche, hein, il termine, il défend. Hein. Mais c'est vrai que de mec qui a coûté aussi cher, tu attendrais à...
C'est peut-être les qualités et le profil qui font que les différents coachs, que ce soit Roberto De Zerbi ou Abibay, apprécient.
On attend des réalisations de sa part et justement qu'il provoque et fasse des passes décisives. Voilà. Il est dépourvu de cela actuellement.
Pour l'instant, il est un peu faible. Ouais. Mais c'est vrai que le problème, moi je pense, tout le monde le voit, c'est un problème mental. C'est un problème mental dans cette équipe. C'est-à-dire que à la mi-temps, moi, je parlais avec... on parlait entre nous. Qu'est-ce que tu vois en deuxième mi-temps ? On n'était pas de l'optimisme délirant.
On peut le comprendre.
On disait plutôt, attention, ne pas prendre un troisième encontre, qu'on va égaliser. J'aurais aimé voir si Gouiri réussit. Alors, le gardien fait un très bel arrêt.
Oui, c'est vrai que Grégory Couder, le portier brestois, a réalisé un match exceptionnel.
À l'image de son équipe, match. À 100%.
Voilà.
Au-delà du pénalty qu'il repousse face à Mason Greenwood en fin de rencontre.
Et il attend le dernier moment et il jaillit sur le côté. Il fait une très belle arrêt.
Et d'ailleurs, il y a vraiment une para qui est exceptionnelle de la part du portier brestois.
Mais toujours est-il que... Tu reviens à 2-1 à la 84e. Est-ce que tu es sûr que tu allais pousser?
Non, mais
égaliser
ça pouvait profiler un espoir, justement, de continuer jusqu'au bout.
Mais peut-être le fait d'envisager un match nul, ça aurait pu être quelque chose de... À 2-1 avec le temps additionnel.
Oui, tu pouvais. Tu prenais un nul, tu étais revenu.
Et prendre un point, ça peut tout changer. Non pas que sur le championnat, mais surtout sur la... complicité et justement de ses joueurs. Et,
C'est vrai que pour la première d'Abibay, le fait de ramener un point et un match nul de Brest, par rapport à la suite du programme et des résultats, on va en parler puisqu'on va se projeter sur le prochain rendez-vous qui est la réception de l'Olympique Lyonnais dimanche soir à l'Orange Vélodrome. L'OL qui s'est incliné à Strasbourg 3 buts à 1 dimanche soir lors de cette clôture de la 23e journée. Voilà, L'OL qui met fin à une série de 13 matchs, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite. Donc je pense que pour les joueurs de Paulo Fonseca, il y aura vraiment une réaction à attendre sur ce match et ce déplacement au Vélodrome dimanche.
Oui. Je pense qu'Henrik ne fera pas le même match qu'il a fait précédemment face à nous.
C'est vrai que le jeune Brésilien revenait de suspension et il n'a pas été à son avantage sur ce match face au Racing Club de Strasbourg.
Voilà un match qui fait peur, évidemment.
Tu as l'impression qu'il n'a pas aimé d'être mis sur le côté droit et qu'il n'avait rien à foutre. Mm-hmm. Enfin, il a été très... Espérons qu'il ne se réveille pas contre nous.
C'est ce que l'on peut craindre,
parce que
malheureusement.
On est à 5 points de Lyon pour la 3e place. On rappelle que la 3e place qualifiée pour la Ligue des Champions, la 4e, tu as 2 matchs de barrage pour y arriver.
Barrage et un tour préliminaire.
Sur les 5 dernières années, 4 fois les clubs français se sont fait
sortir. Les tours préliminaires ne nous avantagent jamais.
Voilà, et nous, on s'est fait sortir par le Panathinaikos Athènes, qui n'était pourtant pas...
Là, pour l'Olympique de Marseille, l'objectif en fin de saison est clairement d'être sur le podium. Donc, c'est vrai que ça va être difficile d'aller chercher le PSG et le Racing Club de Lens.
Donc, pour ce faire, commençons déjà à battre Lyon à domicile. Oui.
Ça passe par un bon résultat et une victoire impérative.
La tâche ne sera pas aisée puisque évidemment qu'il va arriver avec des dents longues en face.
Oui, parce que là on est à 14 points de Paris, à 12 de Lens. Tu reviendras pas, il reste 12 journées.
Et puis il faut regarder le rétroviseur.
Non,
11
aussi, journées.
Hein. 11 journées.
11 rencontres encore à disputer, donc il y a encore 33 points à distribuer jusqu'à la fin de la saison.
Thierry peut tout dégringoler, n'oublions pas le rétroviseur. Hein.
C'est sûr que là, en l'état actuel, je pense qu'à chaque journée, il vaut mieux regarder derrière que devant. Donc,
Lille est derrière nous à 3 points. Quoi.
On a vu que Lille, qui s'est imposée sur la pelouse d'Angers 1-0, et n'est plus qu'à 3 points de l'Olympique de Marseille.
C'est ça, donc, et ici que Rennes, et Strasbourg, on n'est pas loin à 34 points. Quoi,
et on sait que cette équipe lilloise, elle viendra au Vélodrome dans quelques semaines, puisqu'il y a un rendez-vous qui est prévu fin mars, je crois, le 22, juste avant c'est le dernier match avant la prochaine trêve internationale.
On reçoit Lille et ça va être compliqué. Donc dimanche, j'allais dire victoire obligatoire.
Ah oui.
Parce que si tu reviens à 2 points de Lyon, tu peux espérer les gratter. Rappelons que Lyon a la coupe aussi. Hein. Ils reçoivent Lens.
Il y aura un rendez-vous en Coupe de France. C'est vrai que dans le même temps, l'Olympique de Marseille recevra Toulouse. Mais c'est vrai que l'Olympique Lyonnais est encore concerné par la Coupe d'Europe.
Il recevra aussi
l'Europa League.
Et l'Europa League, ils sont en 8e de finale qualifiés l'office. Mmh. Et ils ont une carte à jouer parce que...
Ça leur permet de ne pas jouer.
Ils ont terminé premier de la phase régulière. Donc avec un très beau parcours.
Donc... on peut espérer qu'il lâche un peu des points en Ligue 1 à cause de ça. Reviens à 2 points, c'est jouable. Tu es à 8 points, c'est mort. C'est fini. Et si jamais, le problème, c'est que si jamais ça se passe mal contre Lyon et que mercredi, tu arrivais un tour à la noix en coupe contre Toulouse...
Tu dégringoles totalement.
Ah oui.
Là, c'est le pire scénario qui puisse arriver, messieurs. Oui. Une défaite au Vélodrome face à Lyon en championnat et derrière une élimination toujours à domicile face à Toulouse.
Là, je suis persuadé qu'on n'obtiendrait même pas l'Europa League ni l'Euro Conférence.
C'est vrai que la saison a pris une drôle de tournure, mais alors là, en cas de contre-performance sur ces deux rendez-vous...
On peut parler de véritablement une catastrophe si on en arrive là, et je ne l'espère vraiment pas.
Et là pour Abibay, ce serait le pire scénario qui puisse arriver. Si ces deux rendez-vous si importants venaient à mal tourner. Là,
c'est la mort de l'œuf.
Parce qu'on disait, tout à l'heure, on disait, il a un passé olympien. Il y a un truc aussi, quand il commentait à Canal+, c'était d'ailleurs un excellent commentateur.
Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est un très bon communicant et voilà. Excellent consultant,
voilà,
au demeurant.
Excellent consultant qui était très apprécié et il n'a jamais hésité à dire que l'OM était son club de cœur et qu'il rêvait de revenir à l'OM.
C'est un fait.
Donc ça, c'est un truc qui plaît, quoi. Donc il a un avis positif.
Pour l'attraction, c'est bien.
Par contre,
mais pour la réalisation du truc...
subir deux échecs sur les deux matchs, même un nul contre Lyon, une défaite contre Toulouse, là, tu as le feu. Tu as la bronca à la fin du match.
Non, mais
c'est normal.
C'est la moindre des choses.
Parce que là, pour les supporters, cette fin de saison, on n'imagine pas un autre cas de figure qu'être sur le podium, c'est-à-dire terminer troisième derrière le PSG et Lens, et aller au bout en coupe,
c'est
gagner la Coupe de France qui nous échappe depuis plus de 40 ans.
Non, mais d'abord, parlons de questions de survie financière au niveau du classement. La Ligue des Champions, évidemment, qui reste un projet tout de même qui devient terme.
Qui financièrement est nécessaire.
Non, mais si, voilà. Ouais. On gagne la Coupe de France, et je souhaite de tout cœur. Déjà, il va falloir, il y a encore des équipes, évidemment, très compliquées. Commençons par Toulouse, après on verra.
Oui.
Parce mais il reste, c'est vrai que ce dernier match de Coupe de France, là, qui mettra aux prises Lyon à Lens.
Ouais.
Donc il y a aussi Lorient-Nice
Lorient-Nice.
Strasbourg qui reçoit le Stade de Reims.
Voilà
seule équipe de Ligue 2 encore en lice dans cette compétition.
Ce qui veut dire que même si, même si tu bats Toulouse, il te reste probablement Strasbourg qui devrait battre Reims et le vainqueur de Lyon-Lens.
Ou Lyon. Ouais.
Et même le vainqueur de Lorient-Nice, c'est pas un cadeau. Si tu vas chez eux, c'est pas un cadeau.
À ce niveau-là de la compétition.
C'est vrai que les deux équipes se sont déjà jouées le week-end dernier en championnat. Bon, on a vu qu'il y a eu un match assez prolifique en but, trois buts partout. Bon, là, s'il y a le même résultat en Coupe de France, faudra.
Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Nous verrons cela.
Mais sinon, ça va être compliqué. Mais pour que l'équipe se rassure, pour que Bayeux s'installe en douceur, pour éviter ce que moi je crains, c'est-à-dire que les supporters partent en vrille. Parce que c'est vrai que moi je pense que c'est plus...
Là déjà, il y a eu les banderoles qui ont été mises face pour la réception de Strasbourg il y a une dizaine de jours. Mais
c'était...
Là, pour la première de Bayeux au Vélodrome contre l'Olympique Lyonnais, l'accueil sera quand même à
soutenir. Oui, ça soutiendra. Et puis les gens ne sont pas cons.
Non, mais ces banderoles, c'était plus politique qu'autre chose.
Oui. Ça a d'ailleurs beaucoup surpris que... On attaque Longoria et McCourt.
Voilà. Mais pas Benatia.
Mais voilà. Ça a beaucoup surpris. Il y en a qui ont demandé s'il n'y avait pas eu des discussions. Mais parce que McCourt, en dehors du fait que s'il ne paye pas,
c'est notre financier. Tout simplement.
Mais Longoria, moi, je suis d'accord pour beaucoup de critiques, mais
oui.
C'était un scout qui est venu recruter. Tu l'as mis président, parce qu'il était dans le feu. Et il a accepté. Et ma foi, il n'a pas été plus mauvais que d'autres. Mais bon, c'est pas peu de ouf. Mais en fait, extraordinaire.
Mais je pense que ce qui lui a été surtout reproché, c'est ces mouvements en permanence à chaque période mercato, que ce soit pendant la période estivale ou hivernale.
Oui. C'est vrai que c'est ce qui lui est reproché, mais la question,
mais
c'est...
Mais là, est-ce que c'est le gestionnaire qui a parlé ?
Pourquoi lui ?
Et
pourquoi pas un mot sur Benatia ?
Voilà.
Parce que c'est...
C'est ça,
quand même
Patrick,
lui le recruteur.
Quitte à l'origine justement de tous ces transferts.
Mais c'est vrai qu'on pensait qu'au niveau de la direction, il y avait un trio soudé entre Roberto De Zerbi, Pablo Longoria et Mehdi Benatia.
On a bien compris depuis un petit moment que malheureusement, ça n'a jamais été le cas.
Voilà, celui qui a été pour moi...
On pensait que leur destin était lié tous les trois et que le jour où il y en aurait un qui quitterait le club, les deux suivraient, emboîteraient le pas. Mais bon,
c'est une fadaise qui a été dite, malheureusement, qui ne s'est pas réalisée.
Là, quand on a vu quand même la séquence de la semaine dernière avec le retour de Franck McCourt à Marseille, 72 heures après avoir assisté à OM Strasbourg et... Le maintien de Benatia et la mise à l'écart de Pablo Longoria, on se demande
les décisions
que s'est-il passé dans la tête
mais les décisions s'imposaient, mais fut-elle les décisions à prendre, je ne sais pas.
Voilà, et moi je pense que
à ce moment de la saison,
on a jusqu'en juin qu'il y en a deux, aussi bien Bay que Benatia, qui jouent leur tête. Si tu n'es pas qualifié en Ligue des Champions, si tu ne gagnes pas la Coupe, a fortiori, si tu ne fais pas les deux, ils dégagent.
Parce rien n'est défini pour la saison prochaine.
Si les objectifs ne sont pas atteints, c'est-à-dire la victoire en Coupe de France et le podium, la troisième place en championnat en Ligue 1, on peut dorénavant dire que... Les deux prendront la porte et pourront en faire leur valise et aller voir ailleurs.
Il y a beaucoup de têtes qui vont changer. Car au niveau économique, en premier lieu, ça sera le grave problème si on n'atteint pas justement la qualité
des
champions.
Il y aura une cure d'austérité.
Ben ouais.
Et en plus, il n'y a plus de fusibles. De Zerbi, que moi je considère comme étant un bon entraîneur. Mais il a eu l'honnêteté de partir. Bon, il a négocié pour son staff, ce qui est normal, mais lui, c'est assis
pas à titre personnel,
sur 12 mois de salaire, sur toute l'année prochaine qu'il avait signé, il a dit « j'abandonne ».
Oui, situation honorable.
Donc, c'est vrai qu'il faut se rappeler aussi, messieurs, la phrase de Pablo Longoria il y a quelques semaines, qui disait qu'il voulait en faire le Diego Simeone, le célèbre, le Cholo, le célèbre entraîneur de l'Atlético de Madrid, qui s'est qualifié
hier
pour la Ligue des Champions de l'OM. Donc, 18 mois après, Roberto De Zerbi fait ses valises et quitte le navire olympien.
Donc lui n'est plus là. À première vue, Longoria s'en va.
Il y a un départ qui est actuellement négocié. Voilà. Pour l'instant, il n'y a encore rien de fait, de finalisé. Ouais,
ça se finalise là, dans les prochains jours, ce sera fait. Mais
tu l'as mis dans le train. Tu ne sais pas encore où va le train, mais tu l'as mis dans le train.
Il prend une destination, mais à savoir laquelle.
Voilà. Par contre, ça veut dire qu'il n'y a plus de fusibles.
Voilà.
Ah oui.
Et si jamais tu rates tes deux objectifs, parce que ce qu'on l'a dit, Franck le disait tout à l'heure, avec Lille, Strasbourg, Rennes, Strasbourg et même Monaco qui peut éventuellement revenir.
Monaco est 8ème, va être en 4
points. Tu n'es pas sûr d'être.
Mais là, déjà, rien que quand on regarde le calendrier sur la prochaine journée, il y a Monaco qui recevra samedi à 19h le Spo d'Angers. A priori, je pense que je ne sais pas si les Monégasques devraient s'imposer, quel que soit le résultat qu'ils feront en Ligue des Champions.
On ne peut plus présager de grandes choses, malheureusement. Ouais, c'est compliqué. Oui, donc c'est vrai que là, beaucoup d'équipes, évidemment, on est dans le money time général, en haut comme en bas, et justement, nous
sommes... Parce qu'il y a le Stade Rennais qui recevra Toulouse. Après, pour la première de Francaise sur le banc du Stade Rennais à domicile.
Lille qui recevra Nantes. Nantes, c'est...
Si on ne bat pas Lyon, Rennes revient...
Donc c'est vrai que là, en cas de mauvais résultat dimanche soir, et de victoire des concurrents...
Je suis même pas sûr d'être
Rennes ou de Lille,
en
l'occurrence, ils seront quatrième à notre place.
Voilà.
À l'issue de cette 24e journée, on peut se retrouver carrément éjecté du podium.
Oui, même
d'un éventuel quatrième
place. Donc c'est
le vaisseau chavire déjà, mais il pourrait justement sombrer.
Parce que si on arrivait dans cette situation dramatique, qu'évidemment je ne souhaite pas, tu changes d'entraîneur, tu n'as plus de dirigeant, il faut que tu retrouves un président ou une présidente.
On revient au renouvellement de tête.
Il faut que tu retrouves un directeur sportif. Et puis tu as une partie des joueurs, ceux qui sont prêtés que tu ne gardes pas, ceux qui vont te dire « je me casse », tu vas être obligé de vendre parce que financièrement...
Le premier joueur qui me vient à l'esprit, c'est le petit Britannique, Ethan Nwaneri, qui a négocié son arrivée avec Mikel Arteta pour prendre du temps de jeu auprès de Roberto De Zerbi et qui se retrouve au bout de 3 semaines avec le départ du technicien italien et l'arrivée d'un nouveau coach qui compte pas forcément sur lui par rapport au système de jeu qu'il veut mettre en place.
Et en même temps, c'est compliqué de le conserver, ce jeune joueur talentueux. Tu veux, évidemment, je ne dis pas qu'on n'a pas les moyens de le conserver, mais la politique de cette conservation-là ne sera pas faite.
Non, mais de toute façon, je ne crois pas qu'Arsenal veuille s'en débarrasser.
D'autant plus.
Mais rappelons que la tactique préférée d'Abi Bey, c'est le 3-4-3.
Oui.
Ou 3-4-2-1 ou 3-4-1-2. À Rennes, c'était 3-4-1-2 avec deux pointes. Mbolo, Le Pol.
Ouais.
Et donc,
Voilà, il semblerait plutôt qu'on jouait à 4 derrière. Ouais,
après, il faut voir aussi si dans l'effectif de l'OM, il a vraiment les bons profils pour évoluer dans ce système.
Hein, à mon avis. En défense à 3, oui, parce qu'avec Weah et Emerson, il a deux des rares joueurs qui font à peu près leur match et qui sont des vrais pistons. Par contre, Timothy Weah arrière au droit,
c'est un problème.
À 4, hein. C'est compliqué.
C'est vrai que le système à trois défenseurs, c'est quand même c'est une pratique de moins en moins répandue.
Mais au-delà que ce soit énergivore, là, les joueurs n'en peuvent plus, pas que physiquement, mais Weah, c'est pas un défenseur. À droite, dans le rôle de piston, c'est offensif. Il est capable de faire d'excellentes et de magnifiques choses. Mais
c'est une des rares satisfactions depuis le début de la saison.
Oui,
l'international américain de l'Olympique
mais
de Marseille.
Mais l'utiliser dans ce rôle-là plutôt défensif, c'est un leurre, me semble-t-il.
Après,
une erreur.
Dans ce style-là, dans un 3-4-3 ou 3-4-1-2, 3-4-2-1 et tout, il te faut que les deux soient capables de faire des passes. Et c'est vrai qu'à la construction, pas plus Højbjerg que Vermoren, même Timber, s'il est bon, peut-être Abdelli, sont des garçons qui ont une qualité de passe qui sont intéressantes.
On revient à refaire descendre la bougie.
C'est vrai que peut-être Le néo-international algérien Imad Abdelli, qui est arrivé au Mercato Hivernal, a peut-être une carte à jouer sous les ordres d'Abibay.
Parce que finir cette saison, son rôle.
Il a une bonne qualité d'organisation de jeu. Après, ça sera compliqué, mais après, ça se passe dans la tête. Il faut que dans la tête, les mecs y croient, qu'ils se battent.
Bon, après, dans tous les clubs où il y a un changement d'entraîneur, il y a des joueurs qui arrivent à tirer profit et à être les grands vainqueurs et d'autres perdants. Donc,
il faudra
voir dans les semaines qui suivent ce qu'il en est. Mais bon.
Simplement que le bateau ne coule pas encore, mais ne serait-il pas temps encore de faire jouer les joueurs à leur place? C'est mon sentiment qui est partagé. En même temps, je ne sais pas, la défense à 3 risque d'être un peu, de côté. Et on va jouer à 4 très très probablement. Alors pourquoi ne pas remettre sur un côté droit Pafar qui n'aime pas cela, puisque là ça va peut-être le relancer, parce que axial droit, c'était pas trop ça à 3.
C'est pas extraordinaire.
Peut-être essayer cette défense à 4 et au milieu.
Tu risques de regretter d'avoir vendu Murillo en Turquie à l'arrache, parce que.
Parce que là on a un véritable défenseur droit.
Un défenseur qui faisait le boulot offensivement et défensivement.
Et d'ailleurs, l'international panaméen qui a trouvé ses marques très très rapidement dans cette équipe du Beşiktaş, puisqu'il a marqué un super but ce week-end en championnat contre Göztepe. Voilà, il nous reste moins de 5 minutes pour conclure cette émission. Et juste un petit mot avant de quitter nos auditeurs et de se retrouver la semaine prochaine sur la semaine de stage en Espagne. Voilà, Habib Bey a voulu emmener tout son petit monde à Marbella pour préparer les deux prochaines échéances qui sont la réception de Lyon dimanche au Vélodrome et Toulouse en Coupe de France dans une semaine.
Oui, mercredi prochain.
Voilà, dans la recherche d'une cohésion, mais ce n'est pas un projet futuriste, on est dans assez d'actualité et j'espère que ça va porter ses fruits justement, cette réunion.
Un peu dans la même lignée que ce qu'avait fait Roberto De Zerbi à Rome la saison dernière.
Alors, rappelons.
Mais comment le dit-on en espagnol, cela?
Rappelons à nos auditeurs, c'est un peu comme quand tu fais une préparation d'avant-saison.
Ouais.
Tu es à l'étranger, à l'extérieur. Donc, tous les soirs, tu ne rentres pas à la maison. Ouais. Parce qu'après l'entraînement, tu rentres à la maison, tu vas faire ta vie. Et tu te revois le lendemain à 10h30 à l'entraînement. Là, les mecs, le soir, ils sont dans un
hôtel. C'est le contexte, c'est l'environnement. Je pense que la destination est Marbella, le sud de l'Espagne.
Station
balnéaire
très
réputée pour ces soirées festives. C'est pas un choix.
Ça
m'étonnerait que les joueurs, ils aillent en boîte de nuit à Marbella.
J'espère pas, mais bon, je peux me tromper.
Petite parenthèse, Thierry, je pense que Benassia connaît bien le coin et qu'il fera en sorte que personne ne fasse de faute de fait, c'est le cas.
L'objectif, c'est que
je ne sais pas si il doit y avoir Mehdi Benatchet, il doit être avec le staff.
Il y a
toute la délégation de l'OM qui a pris la direction du sud de l'Espagne depuis 48 heures.
L'objectif, c'est que tu ne rentres pas à la maison, tu ne vois pas des gens extérieurs. le soir, tu manges ensemble, donc diététique, attention, régime et compagnie. Et après, tu bois un coup, tu balades au bord de mer, tu discutes. Ça te permet d'avoir des discussions individuelles entre joueurs, entre staff et joueurs.
Absolument.
Et même le kiné, les membres
l'ensemble,
du staff.
Un petit peu pour resserrer les liens et faire preuve d'une cohésion.
Justement, une recherche de cohésion qui
s'est
pas
un peu effritée au fil des semaines.
Ça a vraiment existé. Mais
rappelons que l'année passée, le stage à Rome avait été extrêmement bénéfique pour la fin de saison. Et ça, c'est un peu un moyen de serrer un entraîneur qui arrive. Il est obligé de faire ça pour prendre la main sur son équipe.
Mais là, c'est en plein money time, évidemment, que c'est une bonne initiative de faire cela.
C'est la seule date de libre où tu avais la semaine.
Eh bien, on espère que ça portera ses fruits et que ça sourira à nos Olympiens avec deux résultats positifs pour la réception de Lyon dimanche et ce match de coupe dans une semaine au Vélodrome contre Toulouse. On va se quitter, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les ondes de fréquence Mistral et on vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Bye bye à tous.
Bye bye, au revoir, merci.